mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, animée donc par les journalistes du PIAF et des membres de l'association altermondialiste ATTAC. Ce soir, nous recevons Nessim Djaziri, vice-président du CADTM, et l'émission sera animée par Pierre, Boris, Magali, Sylvain, Pierre, Gaël, Jean-Marc, etc.
Et nous commençons, comme d'habitude, par les chroniques d'actualité, et l'inénarrable Jean-Marc écrit une lettre à Jean-Marc.
Alors, cher Jean-Marc, depuis l'élection de François, tu es à Matignon avec une bande de potes super chouettes qui font des super discours. Parfois un peu ambigus et contradictoires, mais tout de même super sympa. Ne crois pas que nous te chantons des louanges. Après les affreux de Sarko et Fillon, c'était tout de même vachement facile d'apparaître sympa. Donc, cher Jean-Marc, si nous t'écrivons, c'est pour te dire que nous ne pouvons plus attendre et que les discours suivis de rien ou suivis du contraire commencent à nous les briser menus. Et que les Français ne t'ont pas élu, toi et ta bande de super potes, pour faire la même politique que les affreux d'avant, mais justement pour en changer. Prenons un exemple, le traité européen. François s'était fait élire en particulier sur l'idée qu'il allait remettre l'Europe à l'heure et s'attaquer sévère à la Merkel. Tout ça pour essayer de nous revendre, 6 mois plus tard, le même traité pourri. Si, si, nous te l'assurons, ça énerve. Ça énerve d'autant plus que les banques continuent à s'en mettre plein les poches pendant que vous roupillez, que la règle des 3% est une vaste fumisterie qui empêche toute relance. Pour Peugeot, Mittal, Sanofi, Petroplus, vous pédalez beaucoup, mais ça n'avance pas des masses. Et ça nous énerve aussi. Sur le nucléaire, en dépit de la présence de Phoenix de l'écologie mondiale dans le gouvernement, alors que les Allemands comme les Japonais préparent leur sortie de l'atome, tu annonces la fermeture d'une centrale passoire, c'est très bien, sans parler de l'état de toutes les autres et tout en continuant le chantier de Super Phoenix qui est une absurdité économique autant que le jeu écologique. Ça fait désordre et pas très sérieux. Même pour quelqu'un qui a montré à Nantes ne rien comprendre à l'écologie. Petite parenthèse, rappelons que Jean-Marc Ayrault était le promoteur de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dont nous avons parlé dans une précédente émission qui devait mettre à sac toute une zone protégée, écologique, avec plein de petits osios et de bestiaux qui allaient disparaître pour un aéroport inutile. Et là encore, ça nous énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait continuer la liste à l'infini. Mais nous ne voulons pas abuser de ton précieux temps, alors nous te proposons de t'abonner au PIAF pour avoir des idées claires, et des idées tout court, parce que tu n'en as pas beaucoup, visiblement, ou de lire les économistes atterrés, qui eux aussi ont des bonnes idées, bien meilleures que les tiennes ou l'absence des tiennes, les petits résumés scientifiques d'ATTAC, qui sont très très bien faits, et que même des gens pas très doués peuvent comprendre, donc ça devrait passer pour vous. Encore une autre solution, écouter les émissions de Daniel Mermet, soutenues par les auditeurs modestes et géniaux, parce que tu sais, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça doit te rappeler quelque chose de ta jeunesse, du temps de Giscard. Mais tu sais, les idées, c'est comme la liberté. Ça ne s'use que si l'on s'en sert. Alors, il faudrait peut-être s'en servir. Bref, tout ça pour te dire que si ça ne change pas très vite et très bien, faudra pas venir pleurer si tu prends des tôles, mais alors des méga-tôles aux élections prochaines, ou si un grand mouvement indigné, même s'il porte un autre nom, vient vous faire la misère, une grosse misère, une très très grosse misère.
Et cette semaine, nous avons ratifié le traité européen malgré toutes les promesses du gouvernement et réécoutons les discours de la présidentielle.
S'il fait le choix de me porter à la présidence de la République, j'aurai alors le devoir, l'obligation de renégocier ce traité parce que le peuple français en aura souverainement décidé.
Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément.
Tout le monde demande, tout le monde demande, le gouvernement ment énormément.
Le physiquement, le mentalement, le vulgairement.
Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement.
Et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, logiquement.
Et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman.
Qui ment rarement.
Alors tous les menteurs de la planète se réunissent parfois et tous ceux qui veulent protester contre eux se réunissent aussi. Ça sera le cas le 13 octobre prochain pour une action mondiale pour l'annulation de la dette légitime, Johan.
Exactement. Donc samedi 13 octobre à 14h, avec les soutiens de la coordination des sans-papiers de Paris, les CADTM, ATTAC France, ATTAC Wallonie, Bruxelles et les Sud BPCE, donc organisés par les indignés français, on va justement aller voir nos amis les Goldman Sachs, hein, une des banques qui était à la base de la crise financière des subprimes en 2008, pour protester justement contre l'illégitimité de la dette publique qui justifie toutes les politiques d'austérité qui ont été annoncées dans les pays du Sud. Et maintenant, notre gouvernement français vient d'annoncer aussi pour le budget de 2013. Donc, on fera une promenade festive avec des casseroles et on va faire beaucoup de bruit à Paris, depuis Goldman Sachs jusqu'à l'Assemblée nationale. Et petite parenthèse, la préfecture nous interdit de passer par la place de la Concorde et de passer par l'Assemblée nationale avec des raisons qui sont bien au-delà des raisons juridiques et des raisons qui concernent l'affectivité et les sentiments. Donc on nous a dit que pour des raisons sentimentales, on ne pouvait pas passer par la Concorde et l'Assemblée nationale. Donc on a fait, on a constaté les refus de la préfecture, on a fait un référé en justice, on attend la décision du juge pour dénoncer que c'est justement ces gouvernements nuisent au droit de manifester. Voilà.
Alors juste un petit rappel sur Goldman Sachs, c'est l'une des principales banques américaines et il faut savoir que c'est une banque qui a su placer depuis 1950 pratiquement des anciens de chez elle à la tête du trésor américain et qu'actuellement dans la catastrophe européenne, il y a au moins trois premiers ministres qui sont des anciens de Goldman Sachs.
Et l'actualité indignée et cette interdiction de passer devant l'Assemblée, ça rappelle aussi justement les manifestations espagnoles dont tu étais venu nous parler il y a quelques semaines où les Espagnols n'ont pas eu le droit d'aller jusqu'à l'Assemblée à Madrid.
Donc effectivement, ça se ressemble énormément. Donc on peut soupçonner des volontés d'interdire qu'on s'approche de l'Assemblée nationale pour ne pas ressembler aux Espagnols, aux Portugais, aux Grecs, aux Italiens. Donc demain, c'est une action mondiale, je les rappelle, c'est pas que les indignés en France, c'est à Rome, à Barcelone, à Madrid, à Lisbonne et à Athènes que ça se passe pour manifester justement. Donc effectivement, il y a les 25 septembre, je vais faire peut-être un récapitulatif. Au mois de juillet dernier, le président Mariano Rajoy, qui est le président espagnol du Parti libéral espagnol, l'équivalent de l'UMP français, annonce les pires mesures d'austérité en Espagne depuis 30 ans. Ces mesures, justement, contredisent les programmes électoraux qu'il avait fait élire quelques mois auparavant. Dans les rangs, lorsqu'il annonce ses mesures d'austérité, les députés de son parti s'élèvent, applaudissent et crient des « olé, olé ». Et parmi ces parlementaires, il y a une parlementaire qui crie fort et puis c'est enregistré par la télé. Elle dit qu'ils aillent se faire foutre lorsqu'il annonce les mesures d'austérité. Suite à cette magnifique scène au mois de juillet, il y a une vidéo qui circule sur Internet qui exige justement supercherie électorale, c'est-à-dire on s'est fait lire sur un programme qu'on va contredire et en plus on va l'applaudir à l'Assemblée nationale, une vidéo qui réclame justement l'illégitimité de ces mesures d'austérité et donc il appelle à encercler les congrès, l'Assemblée nationale espagnole. Ceci est criminalisé évidemment par le gouvernement qui dit que quelques citoyens criminels veulent attaquer les symboles de la souveraineté de l'État espagnol et les indignés et les mouvements Occupy qui avaient justement appelé à encercler l'Assemblée nationale s'y réunissent le 25 septembre devant l'Assemblée nationale. La surprise est que l'Assemblée nationale est bloquée avec des barrières et des cars des CRS qui bloquent l'entrée. L'Assemblée réunit, les rassemblements réunissent 60 000 personnes. Tout se passe très bien jusqu'au moment où il y a des gens qui commencent à lancer des pierres et à attaquer les policiers. Et en réponse, il y a une réponse très agressive de la part des policiers qui sont organisés par des petits escadrons de 4 à 6 policiers et qui traversent la foule par les milieux et par les deux milieux de la foule. Ça permet de diviser la foule et ça permet justement de disperser la manifestation. Par la suite, on apprend justement que ceux qui avaient lancé des pierres, etc., il faut rappeler que les mouvements des indignés occupaient ces mouvements non violents, ceux qui avaient lancé des pierres et attaqué les policiers, c'était des infiltrés, c'était des policiers eux-mêmes. Ça a été démontré par des vidéos, etc. Suite à cet épisode, le 29 septembre, on décide de retourner face à l'Assemblée nationale. Et là, 80 000 personnes se rassemblent devant l'Assemblée nationale avec une demande très claire. Le gouvernement a été élu sur un programme qu'il n'a pas respecté. Et donc, on demande la dissolution du Parlement et on appelle à une Assemblée constituante, justement, qui refonde un peu la démocratie qui est en train d'être volée. Donc le 29 septembre, 80 000 personnes, ça s'est passé très pacifiquement et de façon non violente. Et il y a un appel pour le mois de novembre pour revenir devant l'Assemblée nationale espagnole. Donc demain, nous, on va manifester évidemment pour demander la même chose. On trouve nous avait promis un changement qui effectivement pour l'instant n'a pas lieu et qui annonce déjà des mesures d'austérité pour 2013. Donc on va manifester ici, mais aussi avec les restes du peuple qui se sont fait avoir jusqu'à présent.
Alors les peuples se font avoir et les peuples sont de plus en plus au chômage, et ce à travers toute l'Europe, Jean-Marc.
Alors justement, c'est l'une des choses qui est quand même assez étonnante dans la situation actuelle, c'est qu'on a des gouvernements qui non seulement sont dogmatiques au niveau financier, mais qui en plus continuent une politique d'austérité qui a démontré partout où elle a déjà eu lieu que ça enfonçait les pays dans la crise au lieu de les en sortir. Donc il y a le dogme politique, le dogme économique, et avec un entêtement absolument incroyable dont les victimes sont les peuples eux-mêmes. Alors de quoi s'aperçoit-on quand on lit les derniers chiffres du chômage en Europe, c'est que l'Europe, à peu près partout, a mis en place des régimes de réduction des déficits publics, et qu'à chaque fois qu'on réduit de manière importante les déficits publics, il y a une augmentation du chômage. Une augmentation du chômage et de la précarité. C'est-à-dire que non seulement le chiffre des chômeurs bruts augmente, mais qu'à côté de ces chômeurs bruts, il y a des quantités de travailleurs précaires. Alors, on arrive avec des statistiques absolument catastrophiques en Europe. 11,4% en moyenne des Européens sont en chômage. Et tous les indicateurs montrent que ce chiffre va augmenter. Avec des disparités énormes. Des pays comme la Grèce ou l'Espagne sont aux alentours de 25% de chômeurs officiels, près de 50% dans les classes les plus jeunes de la population. Donc un jeune sur deux qui se retrouve chômeur, et dans l'autre moitié, il y a en plus des précaires. Et plus on accentue les politiques d'économie sur la dépense publique, pire c'est. À l'inverse, on s'aperçoit de quoi ? C'est que des pays qui sont pourtant pas des pays communistes, comme les États-Unis ou le Japon, qui, eux, n'ont pas une banque centrale européenne impuissante, mais des banques centrales qui continuent à prêter à l'État, sont très endettées, plus endettées que certains pays qu'on dit en faillite en Europe, et malgré tout, ils s'en sortent avec beaucoup moins de chômage. Aux États-Unis, on est aux alentours de 8%. Au Japon, on est aux alentours de 4%, alors que le Japon est beaucoup plus endetté que la Grèce. Donc, où est la logique de nos dirigeants européens ? On peut se le demander, et on continue. Et là, Hollande, avec son traité qu'il a fait voter au forcing, le traité de Sarkozy, faut bien le dire, c'est une véritable catastrophe, c'est un renoncement qui n'a aucune légitimité et aucune logique. Alors, on peut se demander où ont été formés nos gouvernants. On se peut se demander s'ils sont les seuls à ne pas avoir ces statistiques, parce que si nous, simples citoyens, nous pouvons avoir ces statistiques, pourquoi ne les ont-ils pas ? Pourquoi n'en tirent-ils pas les conséquences ? Alors, deuxième question, c'est que tous ces gouvernants qui sont des gens qui ont dépassé la cinquantaine ont aussi une mémoire, normalement, comme n'importe quel citoyen, comme n'importe lequel d'entre nous. Or, ces politiques d'austérité, on les a vues avec le FMI dans les années 70, 80 et 90, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Et dans tous les pays où on a mené des politiques de privatisation et d'austérité, les pays ne se sont pas redressés, au contraire, ils se sont enfoncés. Ce qui fait encore aujourd'hui de l'Afrique un continent pauvre, dont on ne voit pas très bien donc l'évolution de manière positive. Alors, ils savent tout ça, et pourtant, ils continuent. De même, ils savent que le fait d'avoir rogné les ailes de la Banque Centrale Européenne, le fait que la Banque Centrale Européenne ne puisse pas prêter aux États et que seules les banques privées prêtent aux États est une catastrophe. Et on le voit bien justement avec la différence avec l'Angleterre, avec les États-Unis, avec le Japon. Pourtant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils signent un traité dans lequel on s'enferme dans 3% de déficit, ce qui n'a aucun sens. Absolument aucun sens, c'est un chiffre arbitraire que les économistes ont juste habillé, mais qui n'a aucune légitimité, et on ne fait rien sur le statut de la Banque Centrale Européenne. Donc pourquoi avons-nous les gouvernants les plus bêtes du monde qui, malgré toutes les preuves, malgré toutes les logiques, malgré tous les chiffres, continuent à s'enferrer dans l'erreur et à nous planter, nous les peuples, et à faire du chômage, de la misère et de la détresse partout ?
Partout, on vient de parler de l'Europe et nous allons avec notre invité traverser la Méditerranée pour parler plus particulièrement de la Tunisie. Alors nous recevons Nessim Djaziri qui est vice-président du CADTM, donc le CADTM
Nessim. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le CADTM, c'est le comité d'abolition c'est le comité d'annulation de la dette du tiers monde, qui est un réseau international fondé en Belgique en 1990, qui est composé de comités et de membres locaux, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il vise à contribuer à l'affirmation de la souveraineté des peuples, à la solidarité internationale et à une vraie justice sociale. Et le premier objectif de ce réseau international, c'est l'annulation des dettes publiques du tiers-monde et l'annulation des politiques d'ajustement structurel qui ont fait beaucoup de mal, comme le disait mon camarade tout à l'heure, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, et l'annulation des politiques d'austérité imposées par les institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, avec la complicité des gouvernements. C'est une volonté de casser la spirale de l'endettement dans l'idée de mettre en place un modèle de développement économique et écologique plus juste. Le CADTM a une bonne expérience de lutte dans ce domaine-là, qu'on a mis en place dans les pays qu'on appelle du tiers-monde, en Amérique latine, en Afrique, et avec l'expérience qu'il a acquise durant ces années, maintenant on fait appel au CADTM en Europe pour parler du cas de la Grèce, de l'Espagne et des autres pays.
Je crois que le CADTM est né en fait du constat qu'on a fait dans les années 80 et 90, justement, de l'échec des politiques de crédit faites aux pays en développement ou pays pauvres. Enfin, il y a 36 manières d'appeler ces pays, et de montrer le poids de la dette qui était totalement anormal et hypertrophié par rapport à ce qu'on avait prêté.
Oui, en fait, la dette est un instrument de domination des pays du Nord envers les pays du Sud. Et ça a été démontré... par les travaux du CADTM, par des analyses, par de nombreux articles. Le CADTM mène une campagne, en fait, surtout pour mettre en place des audits nationaux au niveau mondial, mais aussi au niveau de chaque pays.
Donc, tu es à la fois donc membre du CADTM, mais aussi membre de l'ACET, l'association pour l'audit des créances de l'Europe envers la Tunisie. Donc, c'est un autre pan qui rejoint l'action du CADTM, c'est-à-dire de critiquer plus particulièrement l'impact des politiques de prêt des États qui créent la dette de pays qui étaient, il n'y a pas si longtemps encore, sous la dictature.
Et on peut peut-être faire un parallèle, je ne sais pas, avec ce qu'on a dit avant, et dire que justement cette dette qui est un instrument d'asservissement des peuples entre les États, ben finalement ce qui s'est passé dans les années 70 à 2000 entre les États riches et les États pauvres, c'est ce qu'on voit en fait à l'intérieur des États entre les riches et les pauvres. On a changé d'échelle, mais finalement le système d'oppression par la dette est le même.
Au niveau européen, on voit une reproduction de ce qui a été fait dans les pays du tiers-monde.
Ces mécanismes, c'est du fric, hein. Et le fric. Et nous reprenons l'émission Mode d'emploi avec Nessim Djaziri, vice-président du CADTM, avec qui l'on parle aujourd'hui particulièrement de la dette de la Tunisie. Alors, la dette de la Tunisie, c'est-à-dire tout ce qui a été prêté sous la dictature, ce qui est prêté par des États soi-disant démocratiques, aujourd'hui c'est sous le feu de l'actualité, parce qu'il y a, je crois, un projet déposé à l'Assemblée tunisienne, à l'Assemblée constituante, pour parler de cette dette.
Effectivement, durant l'été 2012, un projet de loi a été déposé pour mettre en place une commission d'audit de la dette qui serait composée de membres de la société civile, de politiques et d'organisations connues dans ce domaine, dont le travail est reconnu dans ce domaine, comme le CADTM ou ATTAC. Voilà, c'est un projet qui a été déposé à l'Assemblée nationale constituante Et là, il y a eu une actualité ces derniers jours, c'est que le président de la République tunisienne, lors d'une visite en Amérique latine, a demandé officiellement à ce que l'Équateur fournisse une aide à la Tunisie, parce qu'en fait, l'Équateur, en 2008, a lui-même fait, a mis en place une commission d'audit qui a permis, en fait, de faire des économies, puisqu'ils ont réussi en Équateur à démontrer qu'il y avait une part de la dette qui était illégitime et odieuse.
Alors, si on rentre dans les détails, justement, on parle toujours de la dette comme une somme globale. Alors, on s'imagine être un ménage qui a fait des emprunts et qui doit le rembourser tous les mois, quoi qu'il arrive, etc. Or, la dette d'un État, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et on la divise en plusieurs morceaux. Donc, on parle toujours d'une dette. Enfin, peut-être que je suis pas un grand spécialiste. Hein. La dette empruntée par l'État, la dette des entreprises, et puis dans cette dette-là, quand on est sous une dictature, il y a aussi la dette qui ouais. provient de directement des défauts d'un dictateur.
En fait, concernant la dette tunisienne, le gouvernement actuel continue de la payer, alors qu'il y a une bonne partie de cette dette qui est héritée de l'époque de Ben Ali. Et la situation économique et sociale en Tunisie ne s'est pas améliorée malgré le départ de Ben Ali. C'est en grande partie à cause de cette dette qui est héritée. Pour le budget de 2012, pour dire que le remboursement de la dette, c'est-à-dire de la dette publique externe, c'est-à-dire le capital plus les intérêts, représente en globalité cette dette 15 milliards d'euros. À l'échelle de l'Union européenne, c'est rien du tout, mais pour la Tunisie, c'est énorme. Cette année, dans le budget de la Tunisie, le remboursement de la dette représente 8 fois le budget des affaires sociales, 8 fois celui du développement régional, 3 fois celui de la santé et 6 fois celui de l'emploi, sachant que les revendications d'emploi sont l'une des motivations de la révolution tunisienne.
Cette dette, on voit qu'elle est même un peu spécifique. Je crois qu'on la traite parfois même d'odieuse, cette voilà. dette. Elle en a fait, été contractée sous voilà, la dictature.
La dette odieuse, en fait, c'est une doctrine qui a été mise en place au début du XXe siècle. Une doctrine de droit international par Alexander Sachs, explique qu'il y a trois conditions pour établir une dette odieuse. La première, c'est qu'une dette est contractée par un régime non démocratique ou illégitime. La deuxième condition, c'est que cette dette soit contractée sans le consentement du peuple. Sans vote à l'Assemblée ou sans référendum, etc. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait un assentiment, voire une complicité des créanciers. Par rapport à la Tunisie, on peut se poser la question quant à la nature du régime et les autres conditions. Justement, c'est le travail d'expertise de la commission d'audit, si jamais elle se met en place en Tunisie, qui permettra de voir s'il y a une dette odieuse ou non. La position du CADTM, c'est que on pense oui qu'il y a une dette odieuse, mais le projet de loi qui est déposé, c'est justement qu'il faut voir s'il y a une dette odieuse ou pas, et le projet de loi ne prévoit pas le non remboursement de la dette, le projet de loi qui est déposé en Tunisie, alors que la position du CADTM, c'est de faire comme ce qui a été fait en Équateur, c'est d'établir la dette odieuse et décider de ne pas la rembourser et voire de l'annuler.
Il y a la dette illégitime aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a en Europe, c'est-à-dire des dettes qui viennent justement des banques qui tombent en faillite à cause de la spéculation financière. Les États vont recouvrir les dettes des banques privées, chose qui va augmenter leur propre dette en tant que, qu'État, donc en tant que représentant souverain du peuple. Et donc, du coup, la dette va augmenter justement pour rembourser des risques pris par les systèmes financiers, dont les banques qui sont les agents du système financier. Donc, c'est une dette qui va pas du tout pour des services publics, c'est-à-dire par tout ce qui est intérêt général, mais qui est justement juste sert à payer des risques financiers pris par des agents du marché financier. Ça fait ce qu'on appelle la dette illégitime et qui augmente effectivement donc par les intérêts de pas pouvoir emprunter aux banques centrales nationales et devoir emprunter aux marchés financiers justement, qui sont ceux qui ont provoqué la crise de 2008. Donc on est dans une boucle où la dette augmente par les propres paiements de la dette. Donc c'est ce qu'on appelle la dette illégitime.
Là, on voit la différence entre la dette odieuse et la dette illégitime. Le projet de loi, justement, qui a été déposé en Tunisie, concerne seulement la période de 1987 à 2011. Il y a sûrement une dette illégitime en Tunisie, ça c'est sûr, mais elle ne rentre pas dans le cadre du projet de loi. Je voulais rajouter une chose. C'était qu'en Europe, il y avait quand même un appui à la campagne internationale d'audit de la dette tunisienne. C'est, c'est l'appel qui a été lancé par le CDTM et des eurodéputés, Marie-Christine Vergiat et Gaby Zimmer, appuyé par la signature de 120 parlementaires, qui demandent un moratoire et un audit des créances envers la Tunisie. Il y a aussi dans ce sens l'Assemblée paritaire des pays d'Afrique, des Caraïbes et de l'Union européenne de l'ONU qui a voté en ce sens, et il y a une résolution qui a été une recommandation par le Sénat belge en juillet 2011 aussi qui allait dans ce sens pour établir, faire une créance de la dette odieuse et ne pas la rembourser. Et chose intéressante, le 10 mai 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur la stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissement pour le sud de la Méditerranée, après justement les révolutions du printemps arabe. Et le Parlement européen juge odieuse la dette publique extérieure des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, sachant qu'elle a été accumulée par des régimes dictatoriaux par le biais de l'enrichissement personnel des élites politiques et économiques et de l'achat d'armes utilisées souvent contre leur propre population. Là, je citais.
On voit bien le mot odieux, là.
Oui, et justement, dans le genre odieux et complètement délirant, c'est l'actualité d'aujourd'hui avec l'Union européenne qui reçoit le prix Nobel de la paix pour une paix conservée en Europe. Mais quand on voit justement le problème de la dette, notamment des pays d'Afrique du Nord qui ont été largement empruntés dans leurs anciennes métropoles coloniales, on voit bien que ce prix Nobel de la paix a quelque chose de très amer. Et par ailleurs, je voulais dire aussi que la dette, c'est un monstre qu'on nous présente comme inéluctable, qu'on devrait crever pour rembourser cette dette, alors que le FMI a déjà décidé dans le passé d'annuler une partie des dettes de certains États, et ça n'a fait couler ni le FMI, ni aucun État européen, américain, etc., ni aucune banque. Donc c'est de l'argent virtuel avec lequel on met en laisse des peuples entiers.
D'ailleurs, il y a un exemple de pays européen, justement, qui a fait ce travail d'audit des créances et d'annulation de l'argent prêté à des pays du tiers-monde. C'est la Norvège en 2006, qui a justement annulé des créances que l'État norvégien a jugé odieuse et légitime. Elle a annulé unilatéralement la dette de 5 pays du tiers-monde, dont l'Équateur et l'Égypte. De ce point de vue-là, peut-être que la France pourrait être un exemple dans ce domaine. Enfin, ça serait intéressant pour la Tunisie, vu que c'est le premier créancier. C'est le premier pays créancier envers la Tunisie.
Ouais, mais faut pas faire pleurer Michel Alliot-Marie quand même.
Alors nous reviendrons juste après la pause sur les relations justement tumultueuses de la Tunisie et de l'Europe et plus particulièrement de la France. Mais là, la conclusion s'impose, c'est que l'argent, c'est trop cher. Et bienvenue sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, aujourd'hui animée par l'équipe altermondialiste de l'association ATTAC et des journalistes du journal Le Piaf. Et nous recevons aujourd'hui Nessim Djaziri, vice-président du CADTM, comité pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, avec qui nous parlons plus particulièrement ce soir de la Tunisie. Alors, après avoir parlé de la dette et de la critique de remboursement de la dette pour les pays comme la Tunisie, mais aussi comme tous les pays qui en ont contracté dans des périodes de dictature, nous allons pouvoir un peu parler d'aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, maintenant que la dictature est passée, tout a dû changer. Parce que si on essaye de se rappeler, je sais pas, on peut faire un tour de table des bons souvenirs d'Alio Marie qui proposait des armes et une compétence militaire à la dictature 3 jours avant la révolution. Ou alors, je crois que DSK était passé aussi... en tant que président du FMI à une époque.
Oui, je crois que c'était en 2008. C'était Dominique Strauss-Kahn qui était passé en Tunisie pour féliciter le président de la République tunisienne de l'époque, Zine Abidine Ben Ali, pour le féliciter de la politique économique tunisienne qui, selon DSK, devait être un modèle pour les autres pays. Donc ça a été, ils se sont congratulés l'un l'autre, voilà. Donc on a vu quelques années plus tard, 3 ans plus tard, le résultat de cette super économie, voilà, ça a éclaté au grand jour à ce moment-là.
Alors, les chiffres sont parlants. On parlait tout à l'heure j'ai oublié le chiffre exact, mais de l'énorme proportion de l'investissement français, par exemple, en Tunisie, et donc de la dette qui s'enchaîne. Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises qui appartenaient à la famille Ben Ali sont passées sous domination de l'État, elles ont été vendues.
En fait, il y a une commission qui a été mise en place en Tunisie pour justement récupérer les biens mal acquis. Donc il y a une partie qui a été récupérée par l'État tunisien et il y a eu aussi des privatisations de certaines entreprises, enfin du rachat, pas forcément par l'État. On peut donner l'exemple en téléphonie de la société Tunisiana qui a été rachetée par les Qataris. C'est une entreprise qui fonctionne très bien. C'est là où il y a la plus grande dynamique en ce moment en téléphonie en Tunisie au niveau de l'internet. Et voilà.
Et il y a aussi des entreprises qui ont été nationalisées. Donc ça, on peut trouver ça parfois positif d'imaginer des entreprises qui étaient auparavant de droit privé et puis qui finissent par fournir de l'argent à tout un chacun.
Malheureusement, le gouvernement qui est en place, c'est pas trop sa politique de nationaliser ou même au contraire, de par les conditionnalités du commerce international. Le gouvernement a même une politique de privatisation de plus de à peu près 114-115 entreprises nationales qu'on veut privatiser. Et parallèlement, l'État tunisien a officiellement demandé, a fait un appel d'offres de près de 1 milliard de dollars. C'est colossal pour d'aide ou de prêts, surtout de prêts, à divers créanciers, un peu sur le marché, mais beaucoup au niveau de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Et à ce niveau-là, avec le changement au niveau de l'Union européenne, enfin changement de politique affiché par l'Union européenne, il y a la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne de la BERD qui veut aussi plus investir dans les pays de la Méditerranée. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a un bureau qui a été ouvert de la Banque européenne d'investissement. Et il y a même une concurrence entre les banques pour savoir qui va le plus prêter aux pays de la zone Méditerranée.
Alors, on pourrait avoir l'envie de trouver ça très bien, d'imaginer que la Tunisie enfin indépendante et enfin libérée de la dictature, de date importante pour un pays, de pouvoir gérer elle-même son économie. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait des négociations commerciales à venir.
Alors, suite justement à ce nouvel agenda de l'Union européenne qui veut changer de politique, l'Union européenne a annoncé en décembre 2011 que maintenant, là, en ce moment, allait avoir des négociations au niveau du commerce et aussi de mettre en place des politiques cohérentes en matière d'échange entre l'Union européenne et les pays de la zone Méditerranée. Et elle commence d'abord par les pays signataires de l'accord d'Agadir de 2007, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. On pourrait, comme vous avez dit, on pourrait penser que c'est une bonne chose, puisqu'il y a un volet, justement, qui traite des droits de l'homme et de la transition démocratique. Mais pour l'Union européenne, avant tout, la liberté, enfin, la liberté, c'est surtout une liberté du commerce qui doit se mettre en place ou s'accentuer. Donc les futures négociations qui vont avoir lieu là, au mois d'octobre, octobre-novembre, c'est pour justement approfondir la libéralisation du commerce au niveau de l'agriculture et aussi de la pêche. Libéraliser le secteur manufacturier et des services. L'Union européenne veut qu'il y ait une ouverture des marchés publics aux entreprises européennes. Et elle veut qu'on mette en place un environnement législatif propice à tous ces éléments. Ils appellent ça mettre un climat d'affaires en fait pour le rendre possible. Ça peut par exemple se concrétiser comme par ce qu'on appelle les partenariats publics-privés que les États en fait de la zone du sud de la Méditerranée acceptent de plus en plus des partenariats publics-privés comme il y en a en Europe aussi pour que justement les entreprises européennes puissent s'investir.
Donc derrière l'investissement, on voit encore, je sais pas, on entend toujours les mots néocolonialisme, où les grands pays débarquent dans un pays tout neuf, comme on a pu voir aussi en Europe de l'Est, et c'est toujours les grands groupes internationaux qui vont se servir.
Ah non, maintenant ça a changé, parce que l'Union européenne a dit maintenant on vous demande de il y a une nouvelle politique, c'est le more for more, c'est-à-dire que on va vous aider. Mais on ne dit plus de conditions, mais en échange d'une démocratisation de la société et la mise en place justement des droits de l'homme et l'implication de la société civile. Officiellement, c'est ce qui est dit par l'Union européenne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans les accords des années 90, même de l'accord de Barcelone de 1995, il y avait déjà un volet sur les droits de l'homme et la démocratie. Ça n'a pas empêché l'Union européenne et les États européens de faire du commerce avec Ben Ali, Kadhafi et autres.
Et la Chine.
Ça, la Chine, c'est toujours... C'est toujours d'actualité.
Alors, les conséquences sont certainement à prévoir. Donc, quand on entend privatisation, en général, on imagine des départs forcés de l'entreprise, du chômage qui augmente. Quand on entend privatisation, on parle rarement d'écologie aussi. Est-ce qu'on a des exemples de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui peut arriver, de ces conséquences de changement de l'économie brutale en Tunisie?
Alors, il y a à peu près 2 semaines, il s'est passé quelque chose de très étrange, justement en Tunisie, dans la station balnéaire, très connue ici des Français de Hammamet, je crois. Ce sont les grandes compagnies pétrolières mondiales qui se sont regroupées en Tunisie pour parler de l'opportunité de mettre en place le gaz de schiste. Enfin, mettre en place un débat pour savoir si c'est bien ou pas d'exploiter le schiste qui est en Tunisie. Et donc il y avait des grandes compagnies comme Halliburton et aussi Shell qui est très présent. La compagnie anglo-hollandaise, je crois. Et en fait, ça a été un débat entre les compagnies où aucun journaliste n'était accepté et fermé au public. C'est-à-dire qu'ils étaient entre eux et ils décidaient. On ne sait même pas quelles conclusions ils ont donné à leur débat, mais ce qu'il y a, c'est que l'exploration en Tunisie a déjà commencé. Dans certains endroits.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle façon d'ouvrir au tourisme industriel, ou on va dire, est-ce que ce type de réunion est une façon de faire venir un petit peu des réunions internationales et de réactiver le tourisme?
Non, je crois pas. Là, c'est pas pour des raisons touristiques. Hein. C'est entre eux, ils ont décidé de se réunir pour décider de leur côté, quoi.
D'accord. Mais pourquoi en Tunisie?
Bah justement, parce qu'il y a du gaz de schiste à exploiter. Et ça serait, dans la zone de Kerwa, il y a la société Shell qui est très présente, voilà, qui aimerait commencer déjà. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est Shell, pour se rendre très populaire envers les Tunisiens, a mené une campagne de sécurité routière. C'est-à-dire qu'elle est allée dans les écoles, dans les écoles, et aussi a mené des campagnes de sécurité routière pour dire voyez, Shell, c'est une entreprise qui est super sympa, super cool. C'est pas grave si l'exploitation de gaz de schiste, c'est rien du moment qu'on est là. Donc ils sont allés dans les écoles, donner des stylos, donner des petits autocollants, faire de la sécurité routière pour justement se rendre populaire et derrière. Dans les rapports qu'ils ont établis, il y a vraiment de quoi se faire beaucoup d'argent pour eux.
Alors en conclusion, on peut regarder l'actualité prochaine, donc ces fameuses négociations entre l'Europe, l'Union européenne et donc les pays que sont Maroc, Tunisie et Jordanie. Ce qui peut sortir de là, ça n'a pas l'air d'être si bon que ça pour le peuple tunisien en tout cas.
Après, c'est en fait au gouvernement tunisien, des Tunisiens, Marocains, les Jordaniens, ils sont moins favorables. Mais c'est à eux de bien négocier. De toute manière, il y a de l'argent qui va arriver. Les banquiers vont prêter de l'argent, vont donner de l'argent. Les créanciers vont donner de l'argent. Après, c'est au gouvernement tunisien et marocain de bien les diriger. Parce que les prêts en tant que tels, si c'est bien utilisé, tout dépend de taux d'intérêt, bien sûr, mais si c'est bien utilisé, pourquoi pas? Si c'est vraiment pour le développement économique du pays, on peut l'envisager.
Alors, merci Nessim pour cette intervention.
Merci.
Et nous allons passer à notre chronique à trois voix, la chronique des pigeons. Et on commence par Boris.
Alors, le mouvement des pigeons, vous en avez tous entendu parler, forcément. La presse a relayé la sortie du nid de ces entrepreneurs piaulant contre les taxes sur les successions d'entreprises. Le PIAF ne pouvait pas rester inerte face à cette offensive volatile. C'est la nouvelle appellation, pas encore contrôlée, du patron jeune ou moins, qui en cette rentrée tente de faire passer son cri du contribuable farci de blé pour un recoulage contre la réforme fiscale promise par Hollande. et qui couine comme un renard promis à se faire bouffer comme une vieille poule, VIP. C'est fin. D'autant qu'un civet de pigeon au petit pois, c'est fin. Parce que le pigeon, au sens figuré, ça veut dire se faire pigeonner, ça veut dire se laisser duper. Donc, le petit patron se serait fait avoir par Hollande en campagne, et pas en pâté. Face au projet de loi de finances 2013 du gouvernement, des milliers d'entrepreneurs se mobilisent pour que l'entrepreneuriat en France puisse continuer à exister. Pigeons-nous ça ? On va demander à Sylvain de nous expliquer un petit peu comment toute cette manigance techniquement organisée sur Internet s'est mise en place.
Ah là 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 là. Eh ben, je vais vous dire que j'ai essayé de suivre ça du mieux que je pouvais, en fait, sur le net. Et donc, j'ai essayé de regarder tous les tweets, tous les coucous, tout ce qui se passait, etc. Et les premières choses que j'ai vues, c'était extraordinaire. J'étais vraiment content comment des entrepreneurs se mobilisent et sont tout étonnés. Ils veulent plus taxer le capital que le travail. Oh là là, des entrepreneurs qui deviennent gauchistes. Oh, ça me faisait vraiment plaisir. Et donc, je me suis intéressé et j'étais jusqu'au bout de l'affaire. Et en fait, quand on regarde le bout de l'affaire, on s'aperçoit qu'est-ce qui est demandé, c'est pas justement la contestation qui est faite sur le budget fiscal et en fait les promesses de François Hollande faites aux TPE et aux PME, c'est-à-dire que les PME soient imposées à 30% et les TPE à 15%, mais en fait les fers de lance en fait, de cette pigeonnade, en fait, ce qu'ils réclament en fait, c'est le fait que les stock options soient taxés à 60% en cas de revente. Et donc, en fait, le vrai problème, c'est que ce qu'ils demandent, en fait, c'est que le capital ne soit pas taxé. Donc la vraie conclusion, en fait, c'est de se poser la question, c'est pourquoi ces pigeons ont été écoutés, en fait. Et pourquoi ces pigeons ont été écoutés ? Ben, c'est essentiellement parce que les fers de lance de cette pigeonnade, ce sont les propriétaires des réseaux sociaux, en fait, français. Et donc, ce sont un peu l'équivalent de ce que Lagardère est à la presse au monde social du net. Et donc, Magali va nous expliquer un peu toute cette histoire, en fait, de lobby.
Alors oui, Magali, Sarkozy disait au début de son mandat, aujourd'hui, quand il y a une grève, personne ne s'en rend compte. Alors, tu vas essayer de nous expliquer pourquoi tout ce gazouillis sur Internet a réussi à faire reculer les propositions du gouvernement en matière fiscale.
Eh ben, moi, je sais pas vous, mais je suis déjà largement exaspérée par l'influence des lobbies auprès des parlementaires français et européens. Alors, pour rappel, Bruxelles compte quand même 30 000 lobbies, soit en moyenne 40 par député européen, un pour deux fonctionnaires. Et en France, il existe depuis peu un registre légal, mais sur lequel ne figurent que 153 noms. Le chiffre officiel est donc bien loin de la réalité, puisqu'il y avait, selon l'association Regards Citoyens, quelques 2500 organisations professionnelles qui représentent des intérêts privés qui gravitent nerveusement, tels des mouches, autour de nos députés. Et ils ont eu quand même quelques succès, hein. Si les boissons sucrées ont échappé à la surimposition et les cigarettiers à une contribution sur leur chiffre d'affaires, par exemple, c'est grâce à eux. Bref, on a largement de quoi s'inquiéter sur l'état de la démocratie. Vous savez, ce concept qui prône le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bref, la victoire de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et les privilèges. Et au milieu de tout ça, voilà qu'arrive l'affaire des pigeons entrepreneurs. Donc quelques pigeons, quelques entrepreneurs qui s'insurgent contre la taxation des plus-values, comme on vous l'a expliqué précédemment, la taxation prévue dans le projet de loi de finances. Ils s'emparent des réseaux sociaux qu'ils maîtrisent parfaitement, puisque comme vous l'a expliqué Sylvain, ils créent une page Facebook, un compte Twitter, et hop, ils parviennent en quelques jours à faire reculer le gouvernement. Ils ont donc réussi, un coup de maître, à infléchir le contenu d'une loi avant même qu'elle soit débattue, ce qui a de quoi faire rêver pas mal de syndicats. Donc, si on résume, 60 000 likes sur Facebook et on fait plier le gouvernement. qui ne prend même pas le temps de vérifier si, enfin, les réelles motivations de ces pigeons, vérifier qu'ils ne soient pas des rapaces déguisés, avides de se gaver toujours plus sur le dos des autres contribuables. Le pire, c'est peut-être d'entendre le gouvernement qui se justifie en osant évoquer les vertus de la démocratie. Et quid alors des 80 000 personnes qui ont manifesté pour demander un référendum sur le pacte budgétaire ? En tout cas, l'affaire a déjà fait des émules, puisque sur Twitter, un groupe intitulé « On n'est pas des buses » réclame l'application du non-cumul des mandats. Donc nous verrons si sur ce sujet aussi, la démocratie nous offre toutes ses vertus. En attendant, un message aux dizaines de milliers de membres du groupe Facebook intitulé « Pour la TVA 0,5 et le taux d'alcool à 19,6 », ne désespérez pas, tout espoir est désormais permis.
Alors, après ces pigeonnades, nous allons peut-être avoir une autre explication du gouvernement, de la part du gouvernement, pourquoi ils ne comprennent pas. C'est peut-être qu'ils sont lobotomisés. Lobotomie, Patrick Le Divenin.
Vous voulez aimer, vous embrasser, vous caresser, satisfaire vos envies, on négocie. Ovariectomie, on s'occupe de votre biologie, prenez la vie avec appétit. Ovariectomie, on s'occupe de votre physiologie, de vos lubies, de vos phobies, de votre folie. On modifie, on rectifie, on simplifie. Vous voulez parler, participer, vous exprimer et donner votre avis, on négocie. Trachéotomie, on s'occupe de votre pathologie, prenez la vie avec mélodie. Trachéotomie, on s'occupe de vos anomalies et de votre bizarrerie, de votre hystérie. On modifie, on rectifie, on simplifie. Vous voulez penser, philosopher ou critiquer, ne pas dire toujours oui, on négocie. Lobotomie, on s'occupe de votre psychologie, prenez la vie avec bonhomie. Lobotomie, on s'occupe de vos fantasmagories et de toutes vos fantaisies, de vos utopies. On modifie, on rectifie, on simplifie. Phlébotomie, laparotomie, ovariectomie, trachéotomie, craniectomie.
Lobotomie. Et on remercie Patrick. Alors, pour terminer l'émission, comme d'habitude, l'agenda militant du mois de novembre, du mois qui vient vers nous, octobre d'abord. Avec demain, on en a déjà parlé, prenons la Bastille, mouvement international contre la dette légitime, la démocratie réelle maintenant avec le mouvement indigné et Occupy, 14h, départ devant l'immeuble de du groupe Goldman Sachs, 2 rue de Tannes, suivi d'une marche jusqu'au Parlement.
Alors, prenons la Bastille Diode, c'est une initiative... japonaise pour la révolution énergétique, sachant que beaucoup de centrales nucléaires vont être réouvrir au Japon. Vous pouvez aller à la Bastille demain et vous pouvez voir ça sur le réseau Sortir du Nucléaire.
On continue avec à Besançon, le festival Attaque, samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre au Petit Cursal à Besançon. Voilà, on enchaîne.
Un morceau de Chiffon Rouge débat en présence du co-réalisateur Pierre Baron et de Marcel Tria, documentariste et ancien de Radio Lorraine, Cœur d'Acier, mercredi 31 octobre, dès 19h45 au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e.
Ok, et n'oubliez pas le festival de cinéma d'attaque, Images mouvementées, le mois prochain, au cinéma La Clé, dans le 5e. Vous pouvez voir ça sur imagesmouvementées.org.
Et ce qui termine l'émission en mode d'emploi d'aujourd'hui. Et on remercie notre invité Nessim. Et on avait aujourd'hui eu l'occasion d'avoir en chroniqueur Jean-Marc, Johan, Boris, Sylvain, Magali, Claude à la technique, Patrick pour une intervention slam et un petit coucou à Gaël qui n'est pas là. Merci à tous.